Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Salut, c'est Nadia de Nanner Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Yes, c'est le podcast qui m'a donné la force de me lancer. C'est un podcast féministe et résolument positif. Deux fois par mois, Margaïd, Elsa et Anaïs célèbrent nos victoires de femmes contre le sexisme sous toutes ses formes. Yes, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les warriors du quotidien. Tu peux les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive d'avoir l'impression de toujours chercher ta place, d'avoir le cul entre deux chaises, de chercher l'équilibre entre les différentes cultures qui t'ont construit, de naviguer dans les eaux troubles des identités, de voguer entre un sentiment d'appartenance et un désir violent de rupture, d'étouffer parfois, sous le flot des pressions de part et d'autre des deux mondes, de te sentir incompris, seul, de vouloir crier ton existence? Pour ma part, ce sont des émotions qui m'habitent depuis mon enfance et que progressivement, j'apprends à déconstruire pour tisser, à mon rythme, mon propre chemin. Alors oui, c'est terrifiant, c'est excitant, ça crée des doutes qui peuvent même troubler ta santé mentale. Mais quelle fierté d'apercevoir un peu de lueur au bout du chemin et d'apprendre à valoriser la richesse de ton identité. Salut, c'est Nadia de Nanner Podcast. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus diffusé d'épisodes et je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, je suis désormais seule à l'animation car Jamila et Meriem ont décidé d'emprunter d'autres chemins que je leur souhaite semer de bonheur. De mon côté, j'ai dû mettre de nombreuses choses en suspens pour me concentrer sur l'essentiel. Depuis de trop longs mois, ma famille et moi vivons une terrible épreuve. Mes proches ont été durement touchés par le coronavirus. Mes deux parents se sont retrouvés en réanimation et à l'heure où je te parle, mon père est encore dans le coma. Je leur dédie cette nouvelle saison qui, je l'espère, participera au dialogue entre les identités. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de femmes qui m'ont parlé des obstacles semés sur le chemin de la quête de leur identité, de l'importance de connaître son histoire et des manières de l'apprivoiser pour avancer sereinement et changer les mentalités. À nos identités plurielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nesrine Slaoui, journaliste et autrice d'Illégitime, son premier roman sorti le 6 janvier dernier. Dans son livre, Nesrine, journaliste française d'origine marocaine, retrace son histoire et celle de sa famille. Pendant le premier confinement, elle retourne chez ses parents, dans un quartier populaire d'Apte, dans le sud-est de la France, près d'Avignon. Elle nous invite à partager ses réflexions sur son identité, sur ce qui la sépare des siens, sur le chemin qu'elle accomplit avec passion et un travail acharné, malgré les embûches et la violence systémique. Son livre est un hommage aux illégitimes. Bonjour Nesrine et bienvenue dans Nanner Podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée surtout.
Alors Nesrine, pourquoi à ton avis aujourd'hui, encore en 2021, on parle d'intégration pour des personnes qui sont nées en France? Pourquoi on est encore nombreux à être illégitimes?
Parce qu'on n'a pas encore accepté qu'on est destiné à rester ici. Et y a encore le mythe que les familles issues de l'immigration maghrébine, un jour, elles vont repartir. Et c'est bizarre qu'on n'ait toujours pas intégré cette idée-là parce que nos grands-parents se sont installés ici, nos parents aussi. Et puis nous, finalement, pour beaucoup, il y en a qui sont nés ici, qui ont étudié ici et qui font leur vie professionnelle ici. Et je trouve ça encore même étrange qu'on parle de troisième génération d'immigrés, de quatrième génération d'immigrés, pour des gens qui n'ont pas du tout fait ce processus-là de migrer, de quitter un pays. Donc ça prouve encore qu'on n'a pas totalement envie qu'on fasse partie de cette société et qu'on nous empêche encore d'être considérés comme des Français, tout simplement.
Et toi, à quel moment t'as réalisé justement cette différence de traitement et aussi... Le fait que tu sois différente, que tu sois pas comme tes amis à l'école, par exemple, tes amis qui seraient français de souche, entre guillemets?
Ben, je l'ai réalisé au moment où je formulais des ambitions et on me disait que c'était pas fait pour moi. C'est là, moi, la première fois que j'ai compris que j'étais différente et que d'abord, j'ai pas compris que cette différence-là, c'était un mélange de biais racistes. Au début, je me suis juste dit que c'était lié peut-être à mes compétences parce que j'ai dit très tôt que je voulais faire des grandes études. J'étais très, très ambitieuse quand j'étais petite, notamment quand j'étais au collège. Et quand je formulais ma volonté de faire Sciences Po, on me disait que c'était pas fait pour moi. Et les mots, c'était jamais « ce n'est pas fait pour toi parce que tu es une arabe ». C'est ce n'est pas fait pour toi parce que tu n'as pas la bonne culture, parce que tu n'as pas assez de culture générale, parce que tu n'as pas les moyens financiers. Et comme on dit avec l'intersectionnalité en sociologie, j'étais au croisement du fait effectivement j'étais issue d'un milieu populaire, mais c'est surtout aussi que je suis issue de l'immigration. Donc on considère que ces personnes-là n'ont pas forcément accès à ces études supérieures qui sont considérées comme élitistes, prestigieuses, etc. Donc là, c'est la première fois où moi je me suis rendu compte, en tout cas, que mes origines sociales et mes origines ethniques pouvait être un frein à tout simplement mes aspirations professionnelles.
Et justement, tu dis que tu as su très tôt ce que tu voulais être. Et j'aimerais bien citer une partie de ton livre où tu dis qu'en sixième, tu déclares à ta classe « Je m'appelle Nesrine l'ambitieuse et voici le dictionnaire désordonné du monde tel que je l'ai rencontré ». Très tôt, tu as su que tu voulais être journaliste pour raconter le monde avec tes propres mots. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que tu ne voyais pas des gens comme toi autour de toi ?
Oui, c'était vraiment une volonté par réaction. C'est-à-dire que c'était le fait que je ne me reconnaissais pas dans le traitement médiatique. Et à l'époque, il y avait la triste histoire de Deziyed et Bouna, donc qui sont les deux jeunes garçons qui sont morts à Clichy-sous-Bois alors qu'ils étaient poursuivis par la police. Et ça a marqué toute ma génération. Moi, j'ai 26 ans, ça a marqué ma génération. J'avais à peu près 11 ou 12 ans à l'époque. C'est l'époque où je commençais à regarder les journaux avec mes parents, etc. Et je me reconnaissais pas dans le traitement médiatique et je ne reconnaissais pas notre vie dans le quartier populaire à travers ce qui était raconté à la télévision. Et donc, je me suis dit que je voulais faire partie de ce monde médiatique pour raconter nos histoires et pour raconter des histoires qui ne soient pas aussi caricaturales et stigmatisantes.
Et maintenant, plus de 10 ans après cette déclaration que tu as faite en sixième, tu es enfin journaliste. Est-ce que les choses ont vraiment changé ?
J'ai pas vraiment l'impression, non. J'ai pas vraiment l'impression. Et en même temps, ça a quand même un peu avancé parce qu'il y a, enfin, il faut rendre hommage aussi à tous ceux qui ont fait en sorte que ça avance. Je parle par exemple du Bondy Blog qui a vraiment permis à de nombreux talents, notamment de banlieues parisiennes, d'éclore. Et c'était, moi, c'est eux qui m'ont inspiré au début. Hein. Le Bondy Blog, dès qu'il est créé, je vois la naissance. Je suis loin, mais je les lis et je me reconnais en eux. Je me reconnais dans ce qu'ils racontent. Et on les voit aujourd'hui médiatiquement, ils ont pris de plus en plus de place et tant mieux, même les journalistes maintenant travaillent dans des médias qui sont ce qu'on appelle mainstream ou du moins qui sont puissants comme Mediapart, il y en a à Libération, etc. J'ai quand même l'impression qu'il y a un travail qui a été fait bien avant moi, hein. Par exemple Nasser El Moadem du Bondy Blog, il y a plein Latifa qui travaille actuellement au Bondy Blog aussi. Voilà, il y a des choses qui ont été faites à partir de 2005 et même bien avant. La lutte, par exemple, contre les violences policières, elle date de bien avant. Donc, on est héritier et héritière de ces combats-là, au final. Donc, non, il faut quand même être conscient de ce qui a été fait, de ce qui a avancé. Maintenant, c'est vraiment une analyse personnelle. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux, pour dire clairement, des Noirs et des Arabes dans les médias, mais on n'est pas à des postes de direction, on n'est pas à des postes de rédaction en chef. On n'a pas, en fait, un vrai rôle décisif dans la ligne éditoriale des médias, et c'est ça qui permet de changer le traitement médiatique. Même si on est de plus en plus nombreux, il y a aussi des plafonds de verre, et il y a aussi des systèmes qui font qu'on n'a pas accès aux médias les plus reconnus, et que c'est difficile, ça prend du temps, et que c'est un métier qui s'est beaucoup précarisé avec le temps. Et donc, petit à petit, justement, ceux qui sont les plus précaires initialement abandonnent, et ça peut faire en sorte que ça bloque en fait cette mixité sociale qui est nécessaire à un média et au métier de journaliste. Donc finalement, on avance, mais on n'a pas assez avancé à mon sens.
Et il y a autre chose dont tu parles dans ton livre qui m'a particulièrement touchée parce que, comme toi, je suis une femme française d'origine nord-africaine. C'est que tu dis que tu as fait des choix féministes, notamment le fait d'être la première à quitter le domicile de tes parents en dehors du mariage. Est-ce que tu as l'impression qu'en tant que femme d'origine nord-africaine, le chemin il est encore plus difficile ? Par rapport au regard des autres, par rapport au choix qu'on doit faire un peu entre ces deux mondes.
Bien sûr, parce que ça, c'est même Nassira Guenif Souleymas, elle en parle très très bien dans tous ses livres. C'est le fait qu'on est toujours tiraillé entre deux cultures. Nous, en fait, une culture on va dire maghrébine au sens large, et une culture française. Et du coup, on doit toujours trouver une balance entre les deux cultures, savoir comment mélanger nos deux comportements. Et c'est pas toujours évident de trouver sa place de trouver une identité plutôt qui nous convienne. Et donc, on fait des choix qui sont un mixte des deux. Et comme je le disais, donc moi, pour le coup, je suis la première femme de ma famille proche, c'est-à-dire de mes cousins, mes tantes, etc., à être partie, en fait, pour les études et pas pour un mariage. Donc, ça veut dire quelque chose. Et en même temps, à cette époque-là, je n'avais pas conscience que j'étais la première. Je l'ai réalisé plus tard quand j'ai fini mes études. Et effectivement, le chemin, il est compliqué, mais pas tellement par rapport à nos familles. Enfin, moi, par exemple, ma famille, elle a surtout été d'une grande aide parce qu'elle m'a encouragée. Mes parents m'ont beaucoup soutenue dans mes études. Mais c'est surtout qu'en face, on est aussi confronté à des stéréotypes, à des clichés sur les femmes maghrébines qui font qu'en fait, les gens nous jugent sur notre apparence physique avant même que l'on fasse quoi que ce soit, en fait, avant même que l'on s'exprime ou qu'on juge notre travail. C'est d'abord notre apparence physique, notre façon d'être qui est jugée. Et ça, je trouve ça particulièrement violent. En fait, je me suis rendu compte justement que les gens me voyaient d'abord comme une femme et surtout comme une femme issue de l'immigration maghrébine. Donc avec tous les stéréotypes néfastes que la société a en elle sur ces femmes-là.
Et tu parlais notamment dans ton livre du stéréotype de la beurette qu'on nous a toutes associées. C'est un mot qui nous interdit à la complexité, comme tu disais.
Exactement. Et c'est surtout assez fou qu'on en soit toutes victimes. La preuve que ce mot n'a absolument aucun sens et qu'il faut tout simplement le bannir. C'est-à-dire qu'il n'a pas tout ce qu'on fait est beurette, en fait. Dans tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on défend est considéré comme être une beurette, parce que ce mot est juste fait pour dénigrer la femme maghrébine, qu'importe ce qu'elle fait, qu'importe ce qu'elle dit, qu'importe ce qu'elle porte. Comme je le dis dans le livre, si vous portez un rouge à lèvres rouge, ben vous êtes une beurette. Si vous allez à la chicha, vous êtes une beurette. Si vous voyagez, vous êtes une beurette. Enfin, il y a tellement de stéréotypes. En fait, on a le droit de rien faire. On a le droit de rien faire sans être jugé, parce qu'en plus ce mot, il a une double sens. C'est Nassira Guenif, pareil. Nassira Guenif sous les masques, il explique très bien. Mais le premier sens, au début, c'était des femmes qu'on considérait soumises à l'ordre soi-disant patriarcal de leur culture d'origine, avec le gros stéréotype des frères qui sont enfermants et du père violent, etc.
Et d'ailleurs, on peut voir que sur les sites pornographiques, la catégorie qui est au top de liste, c'est beurette.
Exactement, ça prouve justement ce que je disais, que maintenant c'est devenu une insulte à caractère sexuel, et c'est une manière de dénigrer les femmes maghrébines et les renvoyer en permanence à un objet sexuel.
Donc finalement, effectivement, en tant que femme d'origine nord-africaine, on souffre de plein de choses. On souffre de la violence de classe, du racisme, mais aussi du sexisme et de la fétichisation sexuelle.
Et c'est pourquoi la sociologie, elle est super importante pour moi. Et déjà, je suis pas sociologue. Ce que je livre dans ce livre, c'est uniquement du témoignage intime. Et le but, c'est que ça a un sens systémique. C'est-à-dire que le but, c'est que je raconte dans l'intime ce qui est partagé par beaucoup. En tout cas, je l'espère l'avoir fait dans ce sens-là. Parce que justement, moi, l'intersectionnalité en sociologie, ça m'a permis de comprendre plein de choses de ce que je vivais. Comme tu le disais, le fait qu'on est victime de plusieurs choses à la fois et qui s'additionnent et qui sont d'une violence vraiment extrême, parce que déjà le fait d'être une femme, c'est déjà dans cette société très discriminant. Le fait d'être maghrébin, le fait d'être donc racisé, le fait de venir dans un milieu populaire, tout ça, ça s'additionne et il faut en permanence faire face à ce qu'on appelle des micro-agressions, et parfois c'est même de la violence plus directe, que ce soit de la violence verbale ou du harcèlement par exemple.
Nahol Ben Ali est une journaliste française d'origine tunisienne. Dans une époque où les débats sur les identités et le racisme sont très présents, elle estime que le traitement de ces questions ne fait qu'attiser la haine et renforcer les stigmates. Elle nous rappelle très justement que la France est multiple et que le dialogue et l'écoute des histoires sont des clés de réconciliation. Car oui, il y a autant de Français et de Françaises que de manières de l'être.
Alors pour moi, la question de la double identité, elle est relativement complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas l'impression vraiment d'appartenir à ce qu'on appelle une double identité, parce que je pense que déjà l'identité maghrébine, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien entendre. C'est-à-dire que Moi, je suis née en Tunisie, je suis de nationalité française, je vis en France. Et je m'identifie comme amazigh et non comme arabe. Mais ça, c'est mon phénotype, en fait. C'est mes caractéristiques physiques, mes gènes, etc. J'ai absolument pas le phénotype caucasien ou méditerranéen qu'on va avoir l'habitude de retrouver beaucoup chez les Maghrébins de France, par exemple. Donc, c'est évident que pour moi, déjà, je suis issue d'une identité qui est plutôt invisibilisée au Maghreb, ou du moins qu'on dépeint comme quelque chose de folklorique et non d'essentiel. Donc, déjà, j'ai l'impression de devoir lutter pour revendiquer mon identité amazigh africaine et panafricaine au sein de mes propres compatriotes tunisiens et maghrébins à plus grande échelle. Mais en France, c'est également compliqué parce que finalement, en fait, de prime abord, personne ne se doute que je suis maghrébine. En tout cas, très très peu de personnes. Donc en fait, je dirais que je vis un petit peu ce que peuvent vivre les personnes en fait qui ont un métissage soit des Antilles, soit d'une Afrique subsaharienne mélangée avec un pays européen ou asiatique. Et finalement, je ne vis pas de prime abord ce que les Maghrébins peuvent vivre comme stigmatisation. C'est seulement quand on voit mon prénom, mon nom de famille, qui eux du coup sont arabophones, que là effectivement les choses changent. Cela étant dit, en général, comme c'est trop tard et que j'ai déjà cassé tous les stéréotypes de par mon apparence, ma manière d'être, etc., finalement, je crois que je m'en sors pas trop mal à ce niveau-là. En revanche, parce que je suis journaliste, moi, je vis les choses d'une manière vraiment très fragmentée au niveau de tout ce qui se passe au niveau de l'identité en ce moment. On voit que d'un côté, les questions d'identité, elles refont surface beaucoup en ce moment. On parle beaucoup de racisme, on parle beaucoup d'islamophobie. Sur les débats publics, on voit que c'est vraiment remis au centre. Alors, en tant que journaliste, moi, je trouve qu'on ne traite pas forcément l'info de la bonne manière. Je trouve qu'il y a une véritable incitation à la haine. Je trouve qu'on renforce les stigmates qui sont déjà présents. Et je pense qu'on n'atteint pas forcément le fond du problème, qui, pour moi, est le passé colonial de la France. Je pense que si aujourd'hui, au niveau de l'identité, on connaît des énormes problèmes, c'est parce que le passé colonial de la France a fait énormément de mal. Donc aux Maghrébins, aux Asiatiques, aux Subsahariens, etc. Aujourd'hui, on se retrouve face à des personnes qui sont de nationalité française. Certaines sont de nationalité française depuis plusieurs générations et on leur demande encore de s'intégrer. Et pourtant, et paradoxalement, la France, au niveau des lois, force en fait les citoyens à s'effacer sous l'égide de l'étiquette du français et de la nationalité. C'est-à-dire qu'un Français envoie un autre, qu'il soit entre guillemets français de souche ou français depuis une, deux, trois générations et issu de l'immigration. Cela étant dit, dans les faits, on voit bien que c'est pas du tout ce qui se passe et que finalement, on cherche à invisibiliser le fait que, effectivement, non, un Français, visiblement, n'en vaut pas un autre, vu que la question de la couleur de peau et de la religion va toujours refaire surface. Moi, en tant que journaliste, c'est un travail de recul, en fait. J'ai beaucoup de mal à garder du recul sur les choses, étant moi-même issue de ces minorités visibles et vivant moi-même un côté très fluctuant au niveau de l'identité, au niveau de tout ce que finalement on me remet dessus, toutes les questions qu'on me pose, toutes les interrogations aussi que je peux susciter de par mon identité et de l'histoire de mon pays et de nos identités qui sont très méconnues et au sein même de nos communautés. Mais en revanche, pour la France, ce que je peux en dire, c'est qu'aujourd'hui, être français, je pense que c'est très compliqué parce que l'identité française, on en a bâti une forme d'idéal qui finalement est complètement caduque et impossible, selon moi. Pour moi, la France, elle est multiple, la France, elle est plurielle. Le passé colonial est un fait indéniable, qui a causé énormément de sévices, dont aujourd'hui nos communautés subissent encore les stigmates. Et pour moi, en fait, il faut aller vers une réconciliation, vers ce passé colonial, parce que tant que ça, ce n'est pas instigé, on ne pourra jamais avoir des discussions, ne serait-ce que dans les débats publics, qui sont apaisées. Aujourd'hui, on a une confrontation des pensées, entre guillemets, mais finalement, ce ne sont pas, je trouve, des confrontations de pensées qui sont intelligentes, intelligibles et qui vont vers une conciliation. Quand on cherche la paix, il faut savoir écouter l'autre. Quand on cherche la paix, il faut savoir comprendre l'autre. Aujourd'hui, pour moi, on ne s'écoute pas. On cherche juste à imposer son point de vue. Et les questions de l'identité, c'est pas seulement une question historique pour moi, ce sont aussi des questions qui sont personnelles, c'est transgénérationnel. Et finalement, en fait, tant qu'on n'a pas envie d'ouvrir les yeux sur la pluralité de ce que peut être l'identité, le concept même d'identité, le combat et finalement le débat est perdu d'avance et on n'arrivera à rien.
Et plusieurs fois dans le livre, tu parles de transfuge de classe. Tu dis être transfuge. Est-ce que pour toi, c'est trahir sa classe ? Est-ce que c'est le sentiment que tu ressens encore aujourd'hui ?
Ben justement, en fait, je sais qu'il y a un grand débat dans la sociologie sur ces termes-là de transclasse, de transfuge, parce qu'il y aurait la notion de traître, comme tu le disais. Et moi, c'est pour ça que je préfère utiliser l'expression, dans le livre, j'en parle, de Fabien Truong, qui est un sociologue. J'ai lu tous ses livres et je trouve qu'il est très pertinent sur ces sujets-là parce qu'il a interviewé plein de personnes qui ont fait ces parcours-là. Et il utilise l'expression de chevaux à bascule. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus appropriée parce que, en fait, on n'a pas vraiment quitté. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que les transfuges et les transclasses se reconnaîtront. Encore une fois, je préfère chevaux à bascule. C'est le fait qu'on n'a pas vraiment quitté la première classe sociale. Et on n'a pas vraiment intégré la deuxième. On jongle en permanence entre les deux. Donc, c'est l'image pour moi du cheval à bascule. Elle est très pertinente et elle résume très bien cette situation, en fait, d'entre deux classes et le fait d'être basculer comme ça de l'une à l'autre en fonction des situations, en fonction des personnes en face de nous, en fonction des jours, en fonction des goûts, etc.
Je comprends totalement ce que tu dis parce que je me suis reconnue à plusieurs fois dans ton livre parce que moi aussi je viens du Vaucluse, je suis la seule à avoir fait des études supérieures dans ma famille, à avoir quitté le domicile familial pour des questions de travail ou d'études et je ressens comme toi une espèce de... pas de trahison, mais en tout cas, je fais des allers-retours permanents entre les deux mondes. Et effectivement, je n'ai pas quitté le monde de ma famille. Et je dois quand même toujours trouver une espèce d'entre-deux. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu décris dans ton livre.
Oui, totalement. C'est ce que j'essaye de... Et en même temps, c'est parce que j'ai... et ça, on l'a fait aussi avec moi après plusieurs fois, j'ai parlé de mon parcours. Déjà, j'en avais parlé à Brut. Et on a parfois essayé de me hisser en modèle de ce qu'on appelle la méritocratie, l'ascension sociale, etc. Et justement, dans ce livre, moi, je voulais faire le phénomène inverse, c'est-à-dire de démystifier l'ascension sociale comme un parcours glorieux, en fait. C'est-à-dire qu'on l'imagine toujours que c'est quelque chose qui est plein de gloire et que c'est exceptionnel et qu'on s'accomplit à travers ce parcours. Effectivement, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses positives. Par exemple, j'ai adoré mes études, j'ai adoré tout ce que j'ai appris parce que j'étais très curieuse et je le suis encore. J'avais vraiment soif de savoir. Mais en même temps, qu'est-ce que ça a été violent au final? Et tout a concouru pour que j'abandonne. Et je pense qu'il y en a plein qui abandonnent finalement des études et des études supérieures dites prestigieuses face à la violence de classe, face à la violence raciste, face à la violence sexiste. Et on peut pas leur tirer la pierre. Parce que c'est fait en sorte, le système est fait en sorte pour qu'on ne se sente pas à sa place dans ces endroits-là.
Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, tu parles de névroses, de blessures que tu as un peu accumulées au fil de ce chemin plein de violences et d'embûches. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu le sens? Tu portes encore ce déchirement et ce poids?
Je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivée à m'en défaire parce que justement, je l'ai déconstruit sociologiquement. C'est-à-dire que, en fait, je suis sortie de mon cas personnel. J'ai parlé avec plein de personnes, notamment des femmes maghrébines qui sont passées à travers les mêmes phénomènes. Et du coup, ça m'a aidé à me déculpabiliser, donc à enlever le poids que je pouvais porter sur mes épaules en me disant justement, c'est systémique en fait. Les femmes maghrébines dans les grandes écoles sont pointées du doigt, sont renvoyées à des stéréotypes raciaux, sont renvoyées à des stéréotypes sexistes. Et c'est pas, je ne suis pas la seule. Et je n'estime pas parler au nom de toutes, loin de là, parce que chaque expérience est personnelle et a son sens. Mais en tout cas, moi, ça m'a soulagée de me rendre compte que j'étais pas la seule. Et même ce livre, s'il avait un but, justement, c'est d'aider les gens qui sont passés à travers les mêmes difficultés que moi à ne pas se sentir seuls, finalement.
C'est vrai que c'est très important ce que tu dis, car toi, comme moi, on a eu ce sentiment d'être seul parce que à l'école, il y avait pas de gens comme nous. Il y avait majoritairement de blancs, pas beaucoup de gens d'origine nord-africaine. Et je sais pas toi, mais moi, dans mon adolescence, je pensais être la seule à ressentir ça, ce déchirement. Et je me sentais toute seule, quoi.
Et c'est exactement contre ça que je veux lutter, en fait, maintenant, en essayant de parler... parce qu'au-delà de faire un livre, j'essaie surtout de parler aux plus jeunes à qui ça arrive en ce moment. En fait, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose que j'aurais aimé, moi, lire, ou en tout cas un discours que j'aurais aimé entendre. Je dis pas qu'il est parfait, je dis pas que j'ai les bons mots, mais en tout cas, je me suis sentie seule à ce moment-là. Et j'aurais aimé qu'on m'explique à ce moment-là que ce que je vivais n'avait rien à voir avec ma personne, ma personnalité, etc. C'est-à-dire que ça va au-delà de ça. On a chacune et chacun des comportements, des choses qui nous caractérisent, des défauts et des qualités. Mais quand la violence, elle est systémique, en fait, elle ne vise pas la personne, elle vise ce qu'elle représente et c'est pour ça que c'est violent. Et donc moi aussi, ça m'a aidé en fait à me sentir moins seule, le fait d'écrire déjà et de chercher à comprendre d'où ça venait. Et c'est par exemple, c'est un exemple encore très bête, mais quand j'étais à Sciences Po Grenoble, à la fin de l'année, je me rappelle d'une fille qui m'avait dit « Mais finalement, t'es sympa ». Et cette phrase, elle peut paraître hyper anodine, parce que elle est gentille, tu vois, de l'extérieur, cette phrase. En fait, non, parce qu'elle veut dire quoi? Elle veut dire qu'au départ, on ne me considérait pas comme sympa. Parce que moi, j'ai toujours été un peu en avant, parce que j'ai une personnalité comme ça qui fait que j'aime débattre, j'aime prendre la parole, et je suis pas quelqu'un de discret, de discrète surtout. Et ça, on peut en parler, mais ça gêne toujours, hein, quand les femmes ne sont pas discrètes. Mais en même temps, j'étais très secrète. C'est-à-dire que je ne participais pas beaucoup aux soirées étudiantes, j'étais très enfermée chez moi à étudier, etc. Donc voilà, je me suis rendu compte en fait qu'ils avaient tous emmagasiné des choses contre moi sans me connaître. Et cette phrase, elle m'avait beaucoup marquée parce qu'elle, pour moi, elle signifiait justement ce que je dis dans le livre, les préjugés qui sont collés sur nous et le finalement t'es sympa qui peut paraître en fait gentil. Ben non, en fait, ça veut dire que depuis un an, vous ne m'aimez pas, et vous ne m'aimez pas pour des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai pu dire, juste avec le fait que je sois présente dans cette institution, en fait.
Il y a quelque chose aussi dont je n'ai pas parlé, c'est que ton livre, tu as commencé à l'écrire pendant le premier confinement, qui a été un moment très particulier pour nous toutes et nous tous. Et donc, c'est un moment où tu es rentrée à la maison familiale chez tes parents, donc tu as un peu retrouvé ta chambre d'enfant. Et je me demandais, du coup, ce poids dont on parle depuis tout à l'heure, est-ce que tu penses qu'on l'hérite aussi de l'histoire de nos parents, vu que tu rappelles très justement aussi que de nombreux psychologues affirment que nous héritons des traumatismes de nos ancêtres ?
Mais ça, j'en suis convaincue. Et c'est pour ça que j'ai fait un... C'est pour la première fois de ma vie, je me suis assise avec mon grand-père et je lui ai demandé comment c'était en France. Comment c'était en France quand il est arrivé ici, et ça, j'avais jamais osé le faire. Et même, je le raconte dans le livre, même pour moi, le processus même de se mettre face à son grand-père, il dit beaucoup du tabou qu'il y a autour de ça, de la gêne, de la crainte de révéler aussi des blessures et des choses qui sont pas évidentes pour eux finalement. Donc moi, j'avais conscience qu'il fallait que je fasse à un moment ce travail-là, et c'est Faiza Ghen qui le dit, et moi je suis une grande admiratrice de sa plume et de sa manière d'écrire et de raconter les choses, qui dit que notre génération, en fait, son rôle, c'est de raconter ces histoires-là. Parce que sinon, si on va pas le faire, ils vont partir et ces histoires vont disparaître en même temps qu'eux. Et comme tu le disais, tu vois, tu viens du Vaucluse. J'ai cherché sur le Vaucluse, et peut-être que je pense pas que j'ai mal cherché, mais j'ai rien trouvé. Je cherchais des choses sur cette période-là, parce que mon grand-père est arrivé dans les années 70, en 74, exactement. Et j'ai cherché des textes, des images, des documentaires sur ce moment-là, sur cette histoire-là. J'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, et à un moment je tenais, parce que j'ai ouvert même un carton où il y avait tous ses documents, ma mère a tout gardé pour lui, et je me suis retrouvée face à ses premières fiches de paye, le contrat de travail aussi de l'époque, et je me suis rendu compte du poids historique que ça avait, et au-delà de ma famille en fait, de ce que ça racontait, à quel point c'était une archive importante, et à quel point j'avais quelque chose de précieux, et que l'histoire de mon grand-père, il fallait qu'elle soit racontée. Et par lui, en fait. C'est pour ça que je voulais que ce soit ses mots et que ce soit... Même quand, tu vois, j'ai fait des petits extraits pour annoncer le livre. Et j'étais un peu frustrée parce que un livre... On peut pas entendre la voix des personnes dans un livre. Et je voulais qu'on entende sa voix aussi racontée, même si c'est en arabe, même si... Parce qu'il n'y a pas de honte à raconter son histoire en darija, en arabe marocain. Et donc, du coup, j'avais envie de lui donner ce... Voilà, ce truc-là de pouvoir raconter sa propre histoire et que ça soit dans un livre. Pour moi, c'était important de le faire.
Dans un numéro de la revue Thérapie familiale sur le thème de la transmission transgénérationnelle des traumatismes et de la souffrance non dite, Florence Calicis, psychologue et psychothérapeute systémicienne, explique que les traumatismes peuvent se transmettre à travers les générations. Connaître son histoire semble primordial pour avancer plus sereinement. Il y a quelques mois, je consultais la psychologue et docteur en psychologie sociale, Raki Kassi. Elle prône une thérapie par la parole, qui permet de soulager, de comprendre. Elle prend le temps, avec ses patients, de refaire l'histoire familiale. C'est important pour elle de commencer comme ça, comprendre qui est la personne, qui sont ses parents, ses grands-parents, le contexte dans lequel ils ont grandi, l'ethnie, la langue, les croyances, associées aux différents moments de la vie. Elle m'a aussi parlé des troubles qui peuvent apparaître chez les personnes ayant plusieurs cultures.
Donc, d'une part, on a des troubles identitaires, c'est-à-dire ne pas savoir qui on est, ni d'où l'on vient. On retrouve des troubles identitaires souvent chez les personnes qui n'ont pas d'informations sur leur passé. Dans certaines familles, les parents ne parlent pas, en tout cas ne parlent pas d'eux, ne parlent pas de leur enfance, de leur famille, d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils sont venus en France. Ils ne parlent pas parce qu'il y a dû y avoir des problématiques, soit intrafamiliales, soit sociétales, comme les guerres par exemple. Et ces parents n'ont pas parlé. Voilà. N'ont pas parlé et continuent de ne pas parler. Quand on les interroge, ils refusent de répondre. Et ça crée une angoisse, en fait, chez les personnes, puisqu'elles ne savent pas grand-chose de leurs origines. Voilà, donc on a, d'une part, ça, donc les personnes qui ne savent pas d'où elles viennent, pas d'informations sur le passé, pas d'informations sur les grands-parents, qui souvent ne parlent pas la langue de leurs parents, la langue du pays de leurs parents. Et des personnes, j'ai aussi des personnes pour qui le trouble identitaire peut aller jusqu'au changement de prénom. Donc il y a des personnes qui décident, à l'âge adulte, de changer de prénom, parce que le prénom qui a été donné ne reflétait pas leur identité, en tout cas de ce qu'elles estiment être leur identité. Le deuxième type de trouble que j'observe, c'est plutôt lié au conflit de culture. Et pour ça, je prendrai l'exemple des personnes maghrébines qui viennent me voir. Ce sont souvent des personnes qui savent d'où elles viennent, contrairement aux premières. Qui savent d'où elles viennent parce que les parents sont venus avec leur culture, avec leur tradition, qui les transmettent, qui en parlent, qui pratiquent. Et ce n'est pas là, le problème ne vient pas de là. Le problème vient de la différence entre la culture qui a été transmise et la culture française ou européenne. Quand je dis ça, je parle d'exemples très très précis, comme la question du mariage par exemple, où les parents voudraient un conjoint, une conjointe de la même origine qu'eux, de la même religion, voire du même village, de la même ethnie, etc. Et les enfants ne se projettent pas dans ça. Donc, premièrement, ils ne se projettent pas, et deuxièmement, il se peut que ces enfants fréquentent déjà quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette culture. Donc, la problématique du mariage arrive très très souvent dans nos échanges. La religion également. Si on parle des personnes d'origine maghrébine, j'ai beaucoup de personnes pour lesquelles la religion est la religion musulmane. Et en séance, j'ai des personnes qui me disent « moi, je me sens pas musulmane ». Mais ça, je peux pas le dire, en fait. Je peux pas le dire parce que ce sera mal pris, mes parents seront choqués. Voilà. Donc, en ce qui concerne le mariage, la religion, les différentes habitudes, les intérêts également, j'ai des personnes qui sont, par exemple, artistes ou qui aiment le yoga ou d'autres choses. Ça fait très cliché de dire ça, mais elles ont des mœurs et des habitudes qui rentrent en conflit avec ce qui est transmis par leurs parents. Et donc, ce qui en ressort, c'est beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, en fait. L'angoisse de ne pas pouvoir en parler et de ne pas pouvoir être compris ou comprise. Alors, le conflit de culture que j'observe chez les personnes maghrébines. J'ai en tête deux ou trois exemples et difficilement gérés au quotidien. Donc pour les personnes qui sont encore dans le cocon familial, c'est beaucoup d'anxiété. Comment faire pour jongler entre les attentes familiales et leur épanouissement personnel, en fait. Comment faire pour continuer à étudier, continuer à travailler, à avoir des fréquentations à l'extérieur, tout en respectant les attentes de la famille. Ça génère beaucoup d'angoisse, et pour certaines, elles ont l'impression de jouer un jeu, de mettre de côté leur personnalité, de ne pas être totalement sincère, de ne pas être totalement vrai avec leur famille. D'autres, ça je l'entends un peu plus rarement, mais certaines peuvent ne pas tout dire à leurs amis parce qu'ils ne comprendraient pas. Voilà, donc il y a une espèce de conflit de loyauté entre l'envie d'être une personne épanouie et les attentes familiales qui peuvent aller dans le sens contraire de ses propres envies.
Je rebondis sur ce que tu as dit sur le fait que non, effectivement, il n'y a pas de honte à raconter son histoire en Dalija et qu'en France, on a tendance à valoriser une culture, la culture bourgeoise, comme tu dis. Et toi, tu racontes dans le livre que pendant tes études, tu notais à la marge un petit peu les références qui te manquaient, entre guillemets, en termes de films, de livres que tu n'aurais pas lus, d'expositions. Comment tu te places aujourd'hui par rapport à ça, à cette culture qu'on nous aura imposée, cette culture générale ?
Ben en fait, avec le temps, je me suis débarrassée de cette injonction à s'acculturer de toute la culture bourgeoise. J'ai refusé d'être parfaitement instruite sur la culture bourgeoise et d'assumer que moi-même, ma propre culture, celle que m'avait donné mon milieu social et mes parents, elle, c'était aussi une culture en tant que telle et que je devais la valoriser, j'avais le droit de la valoriser. Donc, ce que je faisais par exemple en prépa, c'est-à-dire de noter absolument, tous les tableaux qu'il fallait voir, les films, les livres qu'il fallait lire, je ne le fais plus parce que maintenant je fais les choses par plaisir, je lis des choses qui m'intéressent. J'écoute ce qui m'intéresse sans cette classification de ce qui est le plus distingué, le plus élégant, etc.
Raïssa Ley a fondé la troupe Kif Kif Bledi, un collectif engagé dans la promotion des danses alternatives d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Son nom de scène est à l'image des éléments constitutifs de son identité. Ley est le diminutif de son prénom Leila, qu'on lui a attribué dans le milieu hip-hop. Raïssa vient du mot présidente en arabe. Ce terme valorisant est aussi celui qu'on donne aux artistes chanteuses et danseuses de l'Ouest marocain. En partant du constat que les danses nord-africaines n'étaient pas représentées et trop méconnues dans les espaces publics, les membres de la troupe Kif Kif Bledi ont décidé de les valoriser. Mettre en valeur son histoire à travers la culture et l'éducation, une belle manière de prendre sa place dans une société.
L'objectif de Kif Kif Bledi, c'est tout d'abord, de manière très modeste, de montrer les danses qui sont indissociables dans nos cultures, de la musique, du chant, de la poésie, des vêtements, des costumes que l'on porte, des tatouages berbères pour certains, des bijoux. Et donc, finalement, en utilisant le biais de la danse, on valorise tout un pendant de notre pays d'origine. Donc, c'est aussi l'idée de montrer qu'en France, on a une richesse incroyable qui n'existe dans aucun autre pays, de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir partager notre diversité, de pouvoir construire un projet tous ensemble avec cela. Donc nos deux cultures sont indissociables dans ce projet, la culture occidentale, voire même les influences américaines, et notre culture d'origine. Et on profite de ce fait pour parler de sujets un peu plus tabous, comme la colonisation, l'appropriation culturelle, les échecs de l'immigration en France et le dénigrement au sens large des arts populaires dans l'espace public. Via la troupe Kif Kif Bledi, on a donc trouvé finalement un outil pour se réapproprier nos cultures d'origine. Cet outil est la danse, tout simplement. Et c'est primordial pour notre équilibre en tant que citoyen français ou européen. Car on arrive à savoir d'où on vient et ça nous permet de savoir où on veut aller. Donc, savoir, connaître son passé, son passif, le mettre en valeur, permet déjà de se reconsidérer dans une société où, on peut le dire en toute transparence, en ce moment, être maghrébin et de facto être assimilé aux musulmans est très mal perçu. C'est pas vraiment notre moment ni notre époque pour être valorisé. Il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de clichés. Et là, avoir, on va dire, un biais qui est neutre, qui passe par la culture et l'éducation, permet vraiment de se ressourcer, de se retrouver et de pouvoir se valoriser. En plus, cette diversité qui est nécessaire en France, parce que ce sont des blocs de population qui constituent la population française, cette diversité permet d'élever des réflexions et des débats, permet d'ouvrir les yeux sur le monde, sur l'international, sur les relations que l'on peut avoir nord-sud. Vraiment, de connaître une culture, pour moi, c'est essentiel. Et il est important de connaître ce contexte avant d'envisager n'importe quel projet, que ce soit professionnel, associatif, social, culturel. Finalement, d'un point de vue personnel, hein, la troupe Kif Kif Lady, elle répond à une question primordiale. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quel est mon objectif? Quelle est ma mission? Quelle trace je peux laisser? Comment je peux contribuer à améliorer une société? Voilà, qu'est-ce que je peux apporter à des gens? Eh bien, nous, je considère que notre présence permet de conserver, de faire évoluer notre culture. Donc, si je parle de mon cas personnel, la culture berbère, qui est ancestrale, qui est millénaire, qui est séculaire, via une transmission orale qui est en perdition, pour différentes raisons. L'exode rural, le fait que les différentes générations n'habitent plus sous le même toit, l'immigration, la pauvreté qui pousse à émigrer vers d'autres villes, et donc à dénigrer ou à mettre de côté ce qui n'est plus prioritaire, à savoir la transmission. Donc tout ça, ça permet de justifier qu'effectivement, on doit, et c'est un devoir chacun, retranscrire, rééduquer, retransmettre ce qu'on nous a transmis à nous-mêmes. Et c'est vrai que quand c'est pas écrit dans des livres, que c'est pas enseigné à l'école, eh bien, il faut faire cet effort de faire des recherches, de se souvenir. Voilà, l'effort de se souvenir, c'est primordial pour moi, et d'essayer de restituer. Alors, on n'y arrivera jamais de manière parfaite. On est vraiment humble là-dessus. On se base beaucoup sur nos souvenirs, ce qu'on a vécu enfant, durant nos vacances. Mais on y met beaucoup de cœur et on veut vraiment montrer que c'est possible d'avoir une double culture et de vivre en toute harmonie. Et en plus de ça, d'apporter quelque chose à notre société qui n'existe pas. Tout ça dans la pure bienveillance et vraiment dans un souci de vivre ensemble.
On a beaucoup parlé du fait que ton livre, tu l'as fait finalement pour les plus jeunes, ceux qui ont traversé ce qu'on a pu traverser. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui aujourd'hui traversent ce chemin plein d'embûches, plein de violences? Est-ce qu'on peut les rassurer un petit peu?
On peut les rassurer en se disant que le fait d'en parler, je pense pour moi, c'est déjà la meilleure solution. C'est-à-dire que plus on sera nombreux à dénoncer la violence de ce système, plus les gens se rendront compte de ce qui se passe et de ce qui se joue contre nous et contre simplement nos aspirations au final. Et c'est même là, faut pas trop que je spoil la fin du livre, mais mon message global, en tout cas, ce que j'essaie de laisser entendre dans ce livre, c'est que il faut pas être en quête de légitimité. C'est-à-dire qu'il faut courir après une légitimité, c'est s'épuiser pour rien. On ne l'aura jamais. En tout cas, moi, je parle vraiment de ma position en tant que femme issue de l'immigration, issue d'un milieu populaire et de tout ce que ça engendre. Je sais que je n'aurai jamais de légitimité dans ce système-là. Et ce n'est pas grave. Ça ne m'intéresse pas, en fait, d'avoir une légitimité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire des choses. Donc, d'écrire un livre, de faire des reportages, etc. C'est ce qui m'intéresse. Et je n'ai pas absolument à vouloir que ça plaise au code bourgeois, que ça rentre dans les normes, etc. Donc, je me suis un peu, délaissée de cette injonction-là à « il faut être légitime ». C'est Alice Coffin dans son livre « Le génie lesbien » qui, en fait, je le conseille à tous les aspirants journalistes parce que c'est un essai, en fait, sur le journalisme, qui dit une phrase hyper intéressante, enfin, une idée hyper intéressante, c'est, en fait, qui a la légitimité? Qui est invité en permanence à parler sur tous les sujets et dont la légitimité justement n'est jamais remise en cause, ce sont les hommes blancs. Et à partir du moment où je ne serai jamais un homme blanc, je n'ai pas à chercher une légitimité que de toute façon on ne me donnera pas et qui de toute façon pour moi est obsolète. Donc voilà, c'est un peu le message final du livre.
Eh bien, merci infiniment Nesrine pour ton livre, de nous avoir accordé ce temps aussi. Je suis incroyablement fière que tu aies pu faire ce livre, qui est ton premier roman. Et je suis encore plus fière de voir que c'est une femme d'origine marocaine, qui vient du Vaucluse, un peu comme moi. J'ai reconnu des lieux dont tu as parlé et effectivement, comme tu dis, il est important que nous, personnes dites minoritaires, nous racontions nos histoires. Elles sont pas légitimes, elles ont le droit d'exister et elles font partie de la France et de son histoire. Donc vraiment bravo et un grand merci.
Merci à toi, merci beaucoup pour ton intérêt. Merci beaucoup.
Cet épisode a été enregistré aux Beaux-Arts de Marseille. Il est produit par le label Popcast. Merci à Nesrine Slaoui, Nawel Benali, Raïssa Ley et Raki Kassi pour leur participation.
J'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux le partager et m'écrire sur les réseaux sociaux à Nana Podcast, N-A-3-N-A-3 Podcast, à nos identités plurielles.